Excellente soirée à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi à 21h sur Radion. Bien évidemment, ce soir, un nouvel invité devant notre micro. Alors, il a plusieurs casquettes. Il est nouvelliste, nouvelliste de talent, couronné en 97 par un prix littéraire prestigieux. C'est le prix Prométhée de la Nouvelle. Il est critique littéraire. Actuellement et essentiellement pour la revue Des Charges. Il est passionné, bien sûr, par le genre de la nouvelle et par la poésie. C'est un gourmand de mots, un gourmand de rhubarbe. N'a-t-il pas d'ailleurs créé la maison d'édition Rhubarbe il y a maintenant 10 ans, en 2004, maison d'édition installée à Auxerre et qui d'ailleurs peut s'enorgueillir d'une centaine d'ouvrages à son catalogue. Il est lorrain d'origine, né en 1958. Et ce soir, on va un petit peu le décasqueter. On va s'intéresser à l'auteur, à l'écrivain, un peu aussi à l'éditeur. Alain Cavès, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Bonsoir Alain, on se tutoie, on se connaît depuis quelques années. Heureux de te recevoir au micro, j'allais dire tout seul, parce que la dernière fois où tu es venu dans Wagon Livre, tu étais aux côtés de Jacques Morin. On avait parlé,
absolument,
je crois que c'était en 2011, me semble-t-il.
Oui, enfin je te fais confiance pour les dates.
On avait parlé de poésie avec Jacques Mo, qui était venu aussi présenter son abécédaire, hein, La poésie de A à Z, selon Jacques Mo. Mais ce soir, on pourrait peut-être, si l'on était ambitieux, mais il nous faudrait plus de temps, intitulé l'émission de ce soir, La nouvelle de A à Z avec Alain Cavès.
J'ai publié un livre qui s'appelle La nouvelle de A à Z, mais ce n'était pas de moi. C'était de René Godin, qui est plus spécialiste que moi.
Alors, Alain Cavès, Alain, je t'ai présenté comme nouvelliste. Et j'aimerais justement que les auditrices et auditeurs de Wagon Livre ce soir se rappellent que Alain Cavès, ce n'est pas que l'éditeur, ce n'est pas que le professeur documentaliste au lycée Vauban. Alain Cavès, c'est aussi un écrivain. Et j'ai à dire, Alain Cavès, c'est quelqu'un de tellement modeste que bien souvent Alain se met en retrait pour valoriser plutôt les auteurs qu'il publie. Vous me direz, c'est aussi la tâche première, presque l'éthique de l'éditeur, de mettre en valeur les autres et d'être en retrait, de se cacher justement derrière ces monstrueuses feuilles de rhubarbe.
Oui, mais les éditeurs sont toujours un peu retors ou calculateurs. Je crois qu'en éditant, on continue d'écrire, on continue de dire quelque chose de soi, et dans l'idéal, un catalogue d'éditeurs est aussi une œuvre de l'éditeur. Alors je ne veux surtout pas prendre aux auteurs la paternité des textes aux auteurs, bien sûr, mais je suis vraiment persuadé qu'éditer, c'est encore une aventure d'écriture. D'abord parce qu'on réécrit beaucoup avec les auteurs, on affine les textes, on dégrossit. Et puis, il y a toute la partie de paratexte, c'est-à-dire concevoir des quatrièmes de couverture, concevoir des avis de parution, etc. C'est encore de l'écriture.
La communication, du contact avec la presse, la valorisation, une partie technique aussi,
une partie
technique à laquelle tu t'es collé, notamment le choix d'un papier, la graphie, peut-être aussi la réalisation d'une couverture, ça.
Oui, oui, c'est un travail. Si j'avais su au départ tout ce qu'engageait l'activité, l'aventure éditoriale, je n'y serais peut-être pas allé. Donc c'est aussi bien que de le découvrir au fur et à mesure.
Peut-être faut-il rappeler quand même que l'éditeur fait d'abord plaisir à de futurs lecteurs plutôt qu'aux auteurs.
Tout à fait. Le but de l'éditeur, c'est de faire plaisir, ou en tout cas de toucher, d'émouvoir, de surprendre, de dérouter, parfois de déranger le lecteur. L'auteur, bien sûr, l'auteur, on sait bien qu'en éditant un texte, il y a tellement de gens qui écrivent, tellement de gens qui veulent être publiés, que l'auteur sera, en principe, en tout cas, je me flatte de ne pas avoir trop de mauvaises expériences sur ce plan-là, l'auteur sera content. Mais c'est le lecteur qu'on vise dans l'édition, bien sûr.
Alors, Alain, tu as décroché le prix Prométhée de la nouvelle en 1997 pour un ensemble de textes, d'un ensemble de nouvelles que l'on trouve aux éditions du Rocher, sous le titre « Le geste manqué de l'amant », le recueil portant le titre d'une des nouvelles. Pourquoi ce choix du texte court, de la nouvelle, puisque la nouvelle, j'allais dire presque, c'est un écrit qui demande beaucoup d'économie, il faut faire mouche en peu de mots.
Oui, la nouvelle n'est pas ma première écriture, c'est effectivement mon premier livre publié, donc un recueil de nouvelles, mais j'avais commencé, comme beaucoup, par de la poésie, étant adolescent, et puis par un roman vaguement policier, parodique, et qui, à le relire aujourd'hui, ne tient pas vraiment la route. Mais pour dire que je suis arrivé à la nouvelle après un certain nombre d'expériences d'écriture. Et c'est vrai qu'écrire du court, c'est très long. C'est très long à faire. Ça demande beaucoup de travail. C'est un petit peu comme... Bon, alors l'image est un petit peu éculée, mais c'est un petit peu l'art du bonsaï. C'est-à-dire que tous les matins, on se dit, il y a peut-être encore un mot en trop, il y a une virgule à changer. Ou... Donc c'est vrai que la nouvelle est, pour moi, peut-être l'art le plus difficile, en tout cas le plus délicat dans l'écriture. Avec la poésie, bien sûr, mais la poésie, c'est encore autre chose.
Dans ton recueil de nouvelles « Le geste manqué de la mort », donc disponible aux éditions du Rocher, il y a une nouvelle qui s'intitule « La margeuse », qui raconte finalement le devenir d'un livre qui passe de main en main, livre acheté d'occasion par un vieux monsieur, et qui va, ce vieux monsieur va être fasciné non pas tellement par le texte, mais plus par les notes qui se trouvent dans la marge de ce livre, notes qu'il suppose avoir été rédigées par une femme, et il est tout d'un coup plus en complicité avec ce personnage qu'il devine, plutôt qu'avec le texte lui-même.
Oui, parce que je crois qu'un... Alors, au-delà de l'histoire qui m'intéressait, parce que ça crée une situation de suspense, on essaye de... C'est une sorte d'enquête presque policière. Qu'a-t-elle pensé? Qu'est-elle devenue? Et bien sûr, on ne sait pas, donc il y a toute la part imaginaire. Mais je crois aussi qu'un livre est dépositaire non seulement de la pensée, de l'expression de son auteur, non seulement d'un choix éditorial, mais aussi des regards qu'ont portés sur lui des lecteurs. Le livre, il porte tout ça. Alors, un livre d'occasion encore plus, et un livre d'occasion annoté encore plus. Ça se perd maintenant. On trouve beaucoup moins de livres annotés, ou alors ce sont des annotations de type universitaire pour mettre baliser un peu le texte. Mais... Il faut se souvenir qu'autrefois, les livres comportaient de grandes marges, justement, afin que les lecteurs successifs, ou uniques, si le livre n'était pas destiné à être remis dans le circuit de librairie, afin que les lecteurs puissent s'exprimer aussi. Donc les fameux commentaires de la Bible ou des évangiles, ce sont des textes en marge. Et un livre, il s'enrichit au fur et à mesure qu'il est lu.
Et d'ailleurs, ces annotations dans la marge, dans la nouvelle La Margeuse, ce sont des textes aquarelles. C'est-à-dire que c'est aussi quelque part une œuvre d'art, presque. Oui. Parallèle au texte de l'écrivain qui disparaît sous la magie de ces notes. Et c'est peut-être le plaisir de se dire qu'un livre vit en passant de main en main.
Tout à fait. Livre a une histoire. Voilà, le livre a une histoire. Le livre devient indépendant de son auteur. Une fois qu'il est paru, c'est un être certes inerte, mais néanmoins vivant, qui vit ses propres expériences, qui passe de main en main, qui soulage, qui rend heureux, qui attriste, selon les moments où il est lu ou par les personnes qui le lisent. Et oui, le livre est un être indépendant avec lequel on entretient une relation d'amour, de haine, de colère, ou tout ça, mais aussi avec les lecteurs précédents, bien sûr.
Si vous venez de prendre cette émission en cours de route ou de rail, puisqu'il s'agit de Wagon Livre, sachez que nous accueillons ce soir Alain Quèves pour mieux connaître l'écrivain, le nouvelliste. Alain Quèves est avec nous jusqu'à 22h. Nous aurons aussi l'occasion de parler des éditions Rhubarbe, maison d'édition qu'Alain Quèves a créée il y a maintenant 10 ans, et des dernières nouveautés de Rhubarbe. C'est Alain Quèves qui a choisi les virgules musicales qui vont ponctuer notre échange. Tout de suite, voici Élie Médéros, Toi, mon toit. On se retrouve dans quelques minutes. Excellente soirée sur votre radio locale.
Toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon tout, mon roi.
Élie Médéros, à l'instant, avec Toi, mon toit, c'était un choix de Alain Quèves, qui est notre invité. Retour dans notre compartiment à bord de Wagon Livre. Alain, revenons à quelques-unes des nouvelles qui constituent Le geste manqué de l'amant, ouvrage disponible aux éditions du Rocher, couronné par le prix Prométhée de la nouvelle. Peut-être est-ce l'occasion de rappeler ce qu'est ce prix Prométhée de la Nouvelle, Alain ?
Alors, le prix Prométhée de la Nouvelle, d'abord, n'est pas, mais était, car il s'est arrêté l'an dernier, était l'unique prix attribué à un manuscrit entier et qui se proposait de publier le dit manuscrit. La plupart des prix de nouvelles existants sont soit attribués à un livre déjà publié, c'est le cas du prix Goncourt de la nouvelle, du prix Renaissance de la nouvelle, donc le livre existe déjà et on attribue le prix à un livre, soit à une nouvelle isolée. Voilà, on a le prix dans la région, le prix littéral ou d'autres qui sont donnés à une nouvelle. Mais le prix Prométhée était donné donc à Lourdes, à un manuscrit entier. Et c'était le seul.
Donc tu as été le lauréat de ce prix il y a donc maintenant...
Quelques années.
Il y a quelques années.
Il y a quelques années.
En 1997. Et dans ce recueil, une nouvelle a pour titre « épier hein, ». Le verbe « épier ». Nouvelle qui raconte le comportement étrange, car il y a toujours du bizarre, toujours de l'étrange, du mystère. On est à la marge entre la réalité et l'anomalie, quelque chose près de l'ordre du fantastique dans tes nouvelles.
Oui, dans mes nouvelles, mais peut-être...
Rien n'est lisse, il y a toujours un petit côté rugueux, un petit caillou dans une machine qui va mal tourner.
Bien sûr, les histoires heureuses n'intéressent pas forcément beaucoup. Je crois que le mystère ou l'étrangeté est consubstantiel à la nouvelle même, parce que la nouvelle est brève, elliptique, et qu'on ne peut pas tout dire dans une nouvelle, et heureusement, il faut laisser au lecteur une certaine responsabilité de compléter l'histoire, d'interpréter des signes. Et donc, même si elle n'en a pas le projet explicite, les nouvelles sont toujours un peu fantastiques, sont toujours un peu mystérieuses. Alors, Épier, effectivement, c'est le cas.
Alors, pour expliquer un peu l'intrigue de cette nouvelle que j'aime énormément, donc un homme qui se cache et qui épie un couple de personnes plutôt âgées qui vivent dans une maison un peu étrange aussi. Enfin, ils voudraient aussi en découvrir l'intérieur. Ils sont protégés illusoirement par trois chiens qui ne sont pas si féroces que cela. Et cet homme, en voyeur, passe sa vie à épier ce couple qui fait d'ailleurs un barbecue en plein hiver. Et ça se termine en... Il ne faut peut-être pas trop le dire. Cet homme est complètement... C'est monomaniaque, il ne se rase plus, il ne se lave plus. Il dit « je puais, je ne me rasais plus ». Et il est obsédé par la vie de ce couple. Et ça se termine en drame. Et je te disais hors micro que j'avais ressenti bien souvent une ambiance hitchcockienne. Bien sûr, parce que Épier me rappelait « Fenêtre sur cour », qui est l'histoire d'un voyeur, mais qui lui est... provisoirement handicapé et qui observe le voisinage, mais dans une grande ville, alors que là, le personnage de Épier, lui, n'observe qu'un couple. Il y a quelque chose de souvent hitchcockien. Je pense, par exemple, à une autre nouvelle, mais qui est extraite du recueil « Ce n'est pas mon visage ». Je pense, par exemple, au potager révélateur, où là, ce cadavre qui est enterré et qui, peut-être, à l'avenir... parce qu'il est enterré, va déplacer peut-être ou laisser des traces en surface au niveau de la végétation. C'est tout à fait exceptionnel aussi. Le policier t'intéresse ?
Le policier m'intéresse parce qu'il donne une ossature au récit. Il donne un rythme, une nervosité qui permet d'aller qui donne envie d'aller au bout du récit. Alors Épier, c'est effectivement l'histoire d'un voyeurisme, mais le voyeurisme de quoi ? Je crois qu'il est... dans mon esprit, c'est le rêve d'une vie parfaite. Cet homme seul observe des voisins, un couple vieillissant, qui lui paraît comme une image idéale du bonheur, de la sérénité, de la tranquillité, sous-entendu qu'il ne vit pas. Et donc il tombe en admiration, en fascination de cette image parfaite de gens heureux. On est dans le voyeurisme, mais aussi dans la...
La frustration,
dans l'aigreur, et ce qui va d'ailleurs amener à une fin peut-être un petit peu...
À
l'irréparable, en tout cas. Mais ce qui le fascine, ce voyeur, c'est ce couple sans histoire. C'est paradoxal. Moins il se passe de choses chez les voisins, plus il est fasciné.
Et qui conduit à la barbarie.
Mais
on n'en dit pas plus. Tu parles de la solitude. Je prends par exemple la nouvelle qui a pour titre « La vaisselle ». Où l'amoncellement de vaisselle dans l'évier, avec des croûtes de fromage un peu moisies collées aux assiettes, le désordre, l'accumulation de cette vaisselle, rappelle et crée un contraste terrible avec la solitude de cet homme abandonné par sa femme, qui se retrouve seul face à la vaisselle, à une tâche domestique à laquelle il va se frotter, mais qui renvoie finalement à l'expérience de la solitude de l'être abandonné.
Oui, bien sûr.
Tes nouvelles ne sont pas très joyeuses, quand même. Elles nous ramènent à des réalités assez dures. Il y a des petits traits d'humour formidables. J'y reviendrai. Mais la nouvelle « La vaisselle », en plus, est extraordinaire. Cette manière de raconter de quelle manière un spontex vient gratouiller une casserole et de là s'en échappe un nuage de lait caillé. C'est extraordinaire.
Oui,
c'est du banal, mais qui est complètement poétisé, là, Alain.
C'est un peu le but, merci Yannick. Le but était effectivement de montrer que la poésie ou le mystère ou le drame ou l'humour se niche dans les expériences les plus ordinaires. Et l'expérience d'une vaisselle à faire, c'est ordinaire et c'est du vécu. Maintenant, on n'est effectivement pas dans des histoires drôles. La vaisselle qui s'amoncelle, c'est toujours une façon de recouvrir un drame, donc le drame de la séparation, de le cacher, de se le cacher. Et l'histoire, la nouvelle, c'est en fait comment on va finalement redécouvrir, remettre à jour le fait historique qu'on s'est caché soi-même. Donc ça n'est pas drôle, mais en même temps c'est peut-être un moment de rédemption parce qu'on a passé des semaines ou des semaines à ne pas oser s'avouer qu'on était seul, et il y a un moment où, nécessité faisant loi, on ose affronter cette réalité et on l'a... Et peut-être qu'on la digère et peut-être que l'après-nouvelle sera plus gaie.
Alors justement, Alain, je vais te demander de nous lire un extrait de cette nouvelle intitulée « La vaisselle » et qui donc est disponible dans le recueil « Le geste manqué de l'amant » que l'on peut se procurer aux éditions du Rocher.
Un rectangle mou, translucide, le frôla, radeau ballotté par les remous, croûte de camembert. De quand datait-elle au juste ? Il réfléchit et se rappela la soirée passée devant la télévision où un film érotique promettait plus qu'il ne tenait. Les circonstances, l'ennui, une sourde colère qui montait l'avaient rivé à son fauteuil. Il avait regardé jusqu'au bout l'histoire stupide et incohérente. Il avait mâchonné son fromage, arrosé de mauvais vin, sans presque s'en rendre compte, subissant avec une trouble volupté la torture des images. Aux personnages sans âme, sinon sans corps, il avait donné des visages. Puis la honte l'avait submergé. Peut-être ne l'aimait-il plus, mais il n'était pas parvenu à la mépriser. Déjà la foule anonyme des couteaux, des fourchettes, la myriade de petites cuillères aux auréoles rebelles dont il n'épuisait pas les hordes, était revenue, déferlant sur ses souvenirs. Eux ne suscitaient rien, ou alors, collectivement, égrenaient-ils les jours ordinaires, la majorité silencieuse des matins inquiets, des après-midi fébriles et des soirs d'apathie. Il les prenait au hasard, leur faisait subir un double passage à travers la pince du tampon à récurer et les plantait dans les seins de leurs prédécesseurs. Il n'y avait rien à dire. Tout juste éprouvait-il un petit sentiment de dépit lorsque, au bout du manche saisi, il découvrait les dents d'une fourchette. Elles étaient plus difficiles à nettoyer. Elles encornaient le tampon et le tiraient de son hébétude.
Un extrait de la nouvelle « La vaisselle » lu par son auteur, Alain Quévès. Alain qui nous propose un nouvel intermède musical. C'est toi qui as choisi cette chanson. C'est la ouate, finalement, entre la ouate et le tampon pour la vaisselle.
Oui.
Il y a une certaine proximité.
Oui. Ah, la ouate, d'abord, c'est un mot que j'aime bien, ouate. Beaucoup de voyelles, peu de consonnes. Et ça fait pendant à un autre mot avec beaucoup de voyelles, c'est ouille. Et la ouate soigne le ouille.
La ouate, Caroline Loeb, on retrouve Alain Quévès, il est notre invité et nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion à bord de Wagon Lit.
Elle balance son cul avec indolence. elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé le soi.
C'est la what.
De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé le soi.
C'est la what.
De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère,
c'est la what.
Passive elle est pensive, en négligé le soi.
C'est la what.
Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère.
C'est la what.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la what.
De toutes les matières, c'est la what qu'elle préfère.
Prométhée de la nouvelle, en 1997, avec Le geste manqué de l'amant aux éditions du Rocher, il a publié une demi-douzaine de livres chez Gros Texte, Fer de chance, Le bruit des autres, et depuis 2004, il anime les éditions Rubarde installées à Auxerre, où il a publié à ce jour une centaine d'ouvrages. Alain Cavès est avec nous à bord de Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alain, autre recueil de nouvelles. Celui-ci a pour titre « Ce n'est pas mon visage ». Il est disponible aux éditions Encre Vagabond dans une collection qui s'intitule « Le bruit des autres ».
C'est l'inverse.
C'est l'inverse, c'est l'inverse. Pardon, c'est l'édition « Le bruit des autres », collection Encre Vagabond. Dans ce recueil, donc, a pour titre « Ce n'est pas mon visage ». C'est le titre d'une des nouvelles. Est-ce que justement, dans « Ce n'est pas mon visage », est-ce que l'auteur montre un autre visage que le vrai Alain Cavès? Il y a peu de place à l'autobiographique dans tes nouvelles.
Oui. L'autobiographie en tant que telle ne m'intéresse pas. Il est évident que tout auteur, tout écrivain, on a même pu le démontrer pour Pierre Larousse avec son dictionnaire, tout auteur est dans son œuvre et qu'on ne tire d'histoire que de soi, de ce qu'on a vécu. Mais ensuite, il y a tout un travail littéraire de construction et surtout de déconstruction pour disséminer les parts autobiographiques. Et je crois que ça n'a pas d'intérêt pour le lecteur, en tout cas, que d'identifier « Ah oui, telle partie est autobiographique ». En tout cas, moi, ça ne m'a jamais intéressé de savoir ce qui était vécu de ce qui ne l'était pas. Ce n'est pas mon visage. Évidemment, le titre du livre est déjà révélateur.
Est-ce que « je » est un autre, justement ?«
Je » est bien sûr un autre. « Je » a toujours été un autre. D'abord parce qu'on a tous plusieurs casquettes, on a tous plusieurs identités. On a tous, et moi comme tout le monde, entre l'identité qu'on se connaît, qu'on se croit, l'identité qu'on voudrait donner à voir, et puis les circonstances de vie qui font qu'on peut avoir plusieurs identités. Alors, ce n'est pas mon visage, c'est aussi le thème assez classique en réalité, en tout cas très pratiqué dans la littérature, du double. Cette rencontre avec le double, avec un autre moi, meilleur ou pire, qu'on envie ou qu'on déteste, qu'on aime ou qu'on... Ou qu'on va tuer. Bon, je ne suis pas le premier à jouer avec cette idée-là, mais je crois qu'elle est fondamentale, tout simplement, parce que l'écrivain, quand il se met à sa table de travail, s'invente une autre vie, s'invente une autre histoire. Alors, non pas pour fuir celle qu'il vit, la vie qu'il mène, mais parce que justement, ce n'est pas sa vie qu'il essaye de raconter. C'est de créer quelque chose de neuf, quelque chose qui n'existe pas. Et donc, une nouvelle est toujours un faux visage de l'écrivain. Donc, ce n'est pas mon visage, c'est un livre. Ce sont plein d'histoires qui sont bien sûr tirées de mon expérience, mais qui ne sont pas moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que le titre du livre pouvait être... interprété.
Je me dois d'apporter une correction. Ce n'est pas mon visage, c'est pas le titre d'une nouvelle. La nouvelle s'intitule « Trompe-l'œil » et c'est le personnage qui se regarde dans une glace et qui ne se retrouve pas, il ne se reconnaît pas et il dit « ce n'est pas mon visage ». Dans ce recueil « Ce n'est pas mon visage » qui date de 2011, Alain, il y a une autre nouvelle, c'est ce fameux potager révélateur. Histoire d'un homme qui ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, ils sont tous un peu au bord de la folie ou alors ils perdent tout d'un coup contact avec peut-être... la réalité, enfin, il déconnecte, pour utiliser une expression peut-être un peu familière, il déconnecte de la réalité, il tue sa tante, donc il l'enterre dans son jardin, d'où la peur de ce potager révélateur. Et il y a, je parlais de l'humour précédemment, il y a cette... tout d'un coup, un chat et un chien rôdent dans le potager, et lui, il épie, justement. Voilà encore une situation. Il épie, il est à la fenêtre, et il a peur, justement, que le chat... et le chien ne viennent déterrer le corps de la tante. Et cela donne cette question très drôle. Jusqu'où un chat ou un chien peuvent-ils creuser pour déterrer une tante? Je trouve ça très drôle. Alors que la nouvelle est pesante, que cet homme a commis quelque chose d'absolument affreux et il n'en sait d'ailleurs pas la raison.
Il n'en sait pas la raison.
Il n'a aucune raison de tuer sa tante.
Il n'en sait pas. Pas la raison, et d'ailleurs, il ne le regrette pas particulièrement. Son seul souci, c'est ai-je enterré assez profond le cadavre ? Il ne sait pas pourquoi il l'a tué, il ne le regrette pas plus que ça, puisqu'il ne sait pas pourquoi, mais il est inquiet du devenir de ce corps caché. Alors on est encore une fois dans l'enfouissement, comme dans la vaisselle, on a caché quelque chose, on veut se cacher ou cacher aux autres, et on a le souci que ça ne remonte pas au jour. Alors l'humour, c'est aussi le fait du temps, c'est-à-dire que le geste manqué de l'amant était beaucoup plus grave dans sa tonalité, et avec les recueils s'accumulant, il y en a eu 4, c'est pas une accumulation quand même trop encombrante, mais je crois que ce qui m'importe maintenant, c'est encore une fois la distance à prendre avec mes propres histoires, non pas les miennes que je vis, mais celles que j'écris, et d'avoir ce décalage. Tu parlais tout à l'heure de déconnexion. J'aime à penser que les personnages des nouvelles en général et des miennes en particulier sont toujours dans un déséquilibre. Ils sont dans la marche et la nouvelle les saisit au moment où ils ne sont ni d'aplomb sur le pied gauche ni d'aplomb sur le pied droit. Ils sont en déséquilibre et on ne sait pas exactement où ça va mener.
Dans le vide.
Ils sont
dans un
vide.
Certain vide,
voilà,
intellectuel, cérébral,
voilà.
Physique aussi.
C'est un moment d'apnée. Une nouvelle, c'est un moment d'apnée. Alors, d'ailleurs, pour le lecteur aussi, c'est un moment où il déconnecte de sa réalité de lecteur. Et ça ne peut pas durer. D'où la brièveté de la nouvelle, bien sûr. Sinon, on tombe et on se fait mal.
Prenons par exemple une autre nouvelle qui a pour titre « La mort en marche ». C'est la première nouvelle du recueil « Ce n'est pas mon visage ». Je lis la première phrase de cette nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent. Je n'étais pas totalement éveillé qu'un cadavre se jeta entre mes jambes dans la pénombre de la cage d'escalier de mon immeuble. Et là, on rentre tout de suite. Il y a un cadavre qui se jette dans les pas. Et là, on est encore dans une histoire où le narrateur trouve régulièrement des cadavres dans les marches d'escalier de son immeuble et s'en inquiète pas plus que cela.
Non, puisqu'il sait bien que ce n'est pas lui, enfin il n'y est pour rien, simplement ses cadavres l'encombrent, le dérangent pour descendre l'escalier. Et bon, il s'apercevra peut-être avec le temps qu'il y a un lien malgré tout avec lui, mais en fait je joue avec les thématiques policières, bien sûr, c'est le début de pas mal de romans policiers. Un personnage se retrouve brutalement confronté à un meurtre, à un cadavre, et ensuite l'enquête commence. Lui, son enquête, il l'amène de façon assez particulière, mais il n'est pas concerné directement par l'histoire et...
Il est plutôt résigné quand même.
Il est plutôt résigné, parce que ils sont
Alain,
là. Ils sont...
Le personnage finit par dire « Je ne saurai jamais le fin mot de l'énigme. Les morts continueraient d'encombrer ma cage d'escalier et voilà tout. Je savais que je m'habituerais. On s'habitue à tout. »
Absolument. Absolument. Les cages d'escalier sont aussi des lieux d'étrangeté, des lieux où tout peut arriver. Quand on est chez soi, à l'abri de sa porte... On est en sécurité. Quand on est dehors, on est dans un monde réel où l'autre, le décor, la vraie vie nous protège, nous mène, nous garde dans une certaine raison. La cage d'escalier, c'est un moment où tout peut arriver, parce qu'on n'est ni seul, ni avec les autres. Et donc, il peut arriver, oui, qu'on soit envahi de cadavres qui apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent, d'ailleurs.
S'il y a des cadavres dans les cages d'escalier des nouvelles d'Alain Quévès, quel est le bestiaire d'Alain Quévès ? Il n'y a pas tellement d'animaux dans tes nouvelles.
Non, il y a des chiens,
des chats.
Il y a quelques chats. Oui, c'est un petit peu... Il y a un ver de terre quand même. Il y a un ver de terre. J'ai la course de fond du printemps a pour protagoniste, entre autres, des vers de terre.
Alors je disais cela parce que je voulais faire une transition avec la prochaine pause musicale que tu as choisie, Alain. Et donc je te laisse l'annoncer. C'est Powou, on écoute Powou.
Eh oui, moi vouloir être chat.
Moi vouloir être chat. Et...
J'ai depuis quelques mois un chat et souvent je me dis que j'échangerais bien ma place avec la sienne.
Alors voici Powou, moi vouloir être un chat. On se retrouve dans quelques minutes avec Alain Quévès.
Ma frotte contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, me toujours rester à toi. Prendre des minchafouilles, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat, et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Moi vouloir être un chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour
tu préfères. À mes félines caresses, les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.
Vouloir être un chat, le groupe Powwow qui avait été victoire de la musique du groupe de l'année en 1993. C'est un choix de notre invité Alain Kevès. Alain, question très directe, quel chemin t'a conduit à l'écriture? Parce que dans un recueil de textes d'auteurs qui ont chacun reçu le prix Prométhée de la nouvelle tout comme toi, ce recueil a pour titre « Le livre d'où je viens ». 16 écrivains racontent un peu de quelle manière, quel livre a enfanté leur vocation ou leur métier, entre guillemets, d'écrivain. En ce qui te concerne, j'ai relevé cette phrase, ces phrases. « Pour en revenir à l'écriture, elle est pour moi une hygiène élémentaire. J'écris pour me tenir chaud d'abord et aussi, plus ou moins délibérément, pour séduire. »
Oui, parce que ce sont en fait les deux motivations essentielles de l'écriture, et je pense que pour toute personne écrivant, on écrit d'abord parce qu'on aime ça, parce qu'on aime être en train d'écrire, donc se tenir chaud. C'est un moment de plaisir que d'écrire, en tout cas quand l'écriture vient, ça ne va pas sans souffrance, mais c'est un moment de plaisir d'écrire. Donc ça, c'est me tenir chaud. Et séduire, parce que l'écriture seule, l'écriture sans lecteur, est extrêmement frustrante et n'a aucun intérêt. Enfin, ou alors on est dans autre chose, on est dans le journal intime. Mais quand on écrit, on a forcément envie d'être lu. Parce que, surtout dans les nouvelles, comme je disais au départ, la nouvelle n'est pas finie d'écrire quand elle est finie d'écrire par l'auteur. C'est le lecteur qui la termine. Donc, on a besoin d'un lecteur pour finir d'écrire l'histoire. Et ce lecteur, il faut bien l'accrocher et le séduire. La séduction, c'est aussi il y a une part technique des faits. Alors c'est la chute, c'est l'humour, c'est le suspense, tout ça, ce ne sont finalement que des moyens de séduction pour accrocher et garder un lecteur. Mais c'est aussi, ça n'est pas gratuit, c'est vraiment parce qu'on a besoin du lecteur, non pas pour qu'il nous admire, mais parce que le lecteur a un rôle dans la nouvelle. Le lecteur, c'est lui qui termine la nouvelle.
Ce qui surprend quand on lit ton témoignage dans le livre d'où je viens, c'est qu'on apprend que ton père était allemand, ta maman était une Française, une Lorraine. Mm-hmm. Donc tu es le produit de ces deux cultures, de ces deux langues, de certaine manière. Tu dis qu'il y avait peu de livres dans la famille Kevès, dans ton enfance, alors qu'aujourd'hui, tu croules sous les livres, les manuscrits, sous les lectures, les notes.
Oui, c'est peut-être. Il y a peut-être une analyse freudienne à faire là-dessus. On essaye toujours de combler un manque, peut-être. J'ai d'ailleurs un petit peu exagéré. On a toujours une part d'exagération quand on écrit, pour en avoir reparlé avec mes frères, mes sœurs, qui m'ont reproché en me disant mais comment ça, il n'y avait pas de livres à la maison. Ce que je dis, c'est ce que moi j'en ai retenu, moi ce qui m'a marqué, ce que j'ai vu. La réalité était autre. Il y avait des livres sans doute à la maison, mais moi je ne les voyais pas. J'avais le sentiment d'être dans une maison sans livres, mais ça n'était pas la réalité, c'était ma réalité. Alors le livre d'où je viens, évidemment c'était une commande, écrire sur ce thème-là. Et à y réfléchir, je me suis rendu compte que je venais d'un livre inexistant. Je venais d'un livre qui n'existait pas, ou peut-être, qui n'existe peut-être pas, pour être plus précis. et dont l'absence m'a motivé pour écrire. C'est parce que ce livre n'existait pas, un livre qui, alors je ne sais pas s'il faut en dire tellement, un livre dont me parlait ma mère.
Oui, ces fameuses poésies de Nietzsche.
Alors. Voilà, les poésies de Nietzsche, dont ma mère me disait régulièrement, enfin quand j'étais gamin, j'avais 7, 8, 9 ans, etc., qu'elle avait beaucoup aimé la poésie de Nietzsche. Et bien sûr, après, devenant un petit peu plus grand, fouillant dans les rayonnages des librairies, je ne trouvais pas d'édition des poésies de Nietzsche. Bon, jusqu'à très récemment, où effectivement ces poésies ont été éditées, mais pour moi, ce texte n'existait pas. Et de savoir qu'un livre avait plu à ma mère qui ne lisait pas, c'est quelque chose qu'un gamin de 8-9 ans, enfin qui marque un enfant de 8-9 ans, dit, forcément il y a un moment où on se dit « Ah ben, moi aussi je voudrais écrire un livre qui plaise à ma mère », et puis ensuite qui plaise à tout le monde, qui séduise tout le monde. Parce qu'on est dans cette idée, dans cette fascination qu'une personne non lectrice avait gardé un souvenir émerveillé d'un livre lu dans son enfance. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on se rend compte qu'une simple lecture peut avoir marqué à vie quelqu'un. Voilà, ce qui motive d'écrire, c'est... On en rêve de marquer à vie quelqu'un, en bien évidemment, hein, que quelqu'un, dans 10 ans, puisse dire... Ah, je me souviens d'une nouvelle d'Alain Quévès que j'ai lue il y a 10-15 ans. C'est une utopie, mais c'est quand même ce vers quoi on voudrait aller.
En tout cas, si l'on veut savoir quels livres ont marqué Alain Quévès, la bibliothèque idéale, et encore elle est restreinte j'imagine, mais la bibliothèque idéale d'Alain Quévès, on la découvre dans le livre d'où je viens, c'est au Castor Astral, 16 écrivains racontent, donc parmi ces 16 écrivains, donc 16 écrivains qui ont chacun reçu le prix Prométhée de
la
Nouvelle.
Pas tout à fait,
ils sont membres du
jury, c'est les membres du jury, ouais. pas les lauréats.
Et il y a le témoignage d'Alain Quévès, et donc Alain aime Edgar Allan Poe, Albert Camus, mais vous irez feuilleter cet ouvrage pour découvrir les livres qui ont marqué, nourri peut-être et en tout cas puissamment influencé Alain Quévès. On le retrouve dans quelques minutes. Dernière étape musicale, Olivia Ruiz, « Je traîne des pieds ».
Je traîne mes casseroles. je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
À bord de Wagon Livre avec notre invité Alain Quévès. Cette fois-ci, Alain a mis sa casquette d'éditeur. Petit coup de projecteur rapide, Alain, sur les dernières publications aux éditions Rhubarbe.
Alors, les dernières publications aux éditions Rhubarbe donc, sont parues juste avant Noël, comme de juste. Nous avons, comme toujours, des textes courts, poésie et nouvelles. Alors, on commence par la poésie, parce que la poésie est toujours première. C'est un recueil de Jacques Morin, sans légende. Alors, Jacques Morin, c'est un revuiste, il est surtout connu comme revuiste, la revue des charges, mais c'est aussi un poète trop peu, trop modeste, qui se cache lui aussi derrière son activité éditoriale. Sans légende, c'est une tentative de dire au plus près et au plus douloureux parfois la réalité du poème, du poète, sans légende, c'est-à-dire comme une photographie sans commentaire, mais aussi comme une histoire sans qu'elle soit enjolivée, sans qu'on la rende artificiellement jolie. C'est un petit peu le but de la poésie que de ne pas mettre de fioritures, de ne pas commenter, d'être brut de décoffrage. Donc, sans légende de Jacques Morin, un très 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 beau recueil.
Une poésie très ancrée dans la réalité, au plus près.
Très ancrée dans la réalité, à la fois la réalité du poète, mais aussi la réalité sociale extérieure, puisqu'il y a trois parties, la nuit, le jour et le dehors. Ensuite, donc, des nouvelles. Alors, j'ai vraiment eu un très très grand plaisir à publier Le Grand Labeur de Jean-Pierre Canet, parce que c'est un auteur qui a quand même beaucoup d'ouvrages derrière à son actif, et que les nouvelles que lui m'a proposées, j'ai eu un coup de cœur, au point de bousculer un petit peu mon calendrier éditorial. Ce sont des nouvelles âpres, des nouvelles sombres. Il y a parfois un petit côté Goya, une certaine cruauté, un mystère toujours, bien sûr, puisque la nouvelle est toujours elliptique, on ne le dira jamais assez. Ce sont des nouvelles de personnages qui se cherchent dans un environnement en complète déréliction. Et voilà, et on essaye d'avancer dans la nuit, dans le brouillard, de patauger dans les marais. On essaye d'avancer. C'est ça le grand labeur. On essaye de faire avec le monde. Et franchement, c'est un recueil qui, moi, qui m'a marqué à la lecture et qui continue.
Oui, je l'ai lu. Tu me l'as d'ailleurs fait suivre en service de presse. C'est tout à fait remarquable. J'espère bien que nous aurons Jean-Pierre Canet devant le micro de Wagon Livre. Hein.
Les deux autres nouveautés, donc, ce sont alors des livres très fins, des tout petits livres, mais des grands livres quand même. Jean-Noël Leblanc, Les Orties Douces, et François Vigne, L'Heure Bleue. Pourquoi je les présente en même temps? C'est parce qu'ils ont la même thématique, qui est la fin de vie. La fin de vie d'une dame âgée qui s'en va. Voilà, la mémé chez Jean-Noël Leblanc qui s'en va. Mais sur cette même thématique, on a deux écritures tout à fait différentes, deux approches tout à fait différentes. Alors, Les Orties Douces, c'est effectivement un hommage du petit-fils à sa grand-mère. Un hommage à la fois à la personne, mais aussi une évocation nostalgique et assez souriante, assez heureuse d'une époque qui disparaît en même temps que disparaît cette personne.
Jean-Noël Leblanc convoque ses souvenirs d'enfance.
Voilà.
Avec les cousins.
Voilà, les cousins, les jeux.
La gourmandise, les
gaufres, etc. Représentait tout ce qu'était cette grand-mère, tout ce bonheur qu'elle incarnait. Tout ce beau, cette belle vie, ce beau temps qui va sans doute, enfin qui va disparaître avec elle, mais au moment où il écrit, il est déjà loin de cette enfance-là, mais c'est une part de souvenirs qui s'en va surtout.
D'où le titre,
les
orties douces.
Les orties douces.
Chérubarbe.
Voilà, ça pique, mais c'est doux. Et donc l'heure bleue, alors l'heure bleue, c'est surtout un récit sur la mémoire qui flanche, hein, comme le dit la chanson, sur les souvenirs les plus importants qui s'effilochent et qui se confondent et on lutte contre ça. Puis on connaît bien l'issue de la lutte en l'occurrence, mais Tant qu'un lambeau de souvenirs reste, il mérite d'être dit, il mérite d'être réaffirmé, d'être exprimé, parce que là aussi c'est un temps qui va disparaître. Un temps d'après-guerre, avec le mari qui est disparu depuis déjà pas mal d'années, mais réfugié espagnol, républicain espagnol.
Le fils qui ne s'occupe pas trop de la mère, heureusement il y a la petite fille.
La petite fille, voilà. Mais ce n'est pas un récit sur les relations. Bien sûr, il y a tout ça, mais c'est vraiment l'observation assez au scalpel, un petit peu sèche même de ce drame qu'est la perte progressive de la mémoire, la perte progressive du passé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand on perd la mémoire, on meurt déjà avant de mourir réellement. Et la personne le personnage principal du récit se rend compte de ça. Il se rend compte qu'il perd la mémoire petit à petit. Et c'est cette chose-là qui, moi, m'avait beaucoup touché.
Merci Alain pour la présentation donc, de ces dernières publications Rhubarbe. Rhubarbe a un site internet, hein, on peut le consulter, on peut commander même par le biais du site.
Voilà, chez tous les bons libraires et sur le site.
Et puis on peut lire Alain Quévès dans le texte, hein, Le geste manqué de l'amant, donc prix Prométhée de la Nouvelle en 1997, est aux éditions du Rocher. Ce n'est pas mon visage d'Alain Quévès, toujours, c'est aux éditions Le Bruit des Autres. Et puis on mentionnera également, pour découvrir la bibliothèque idéale d'Alain Quévès et découvrir quel livre fondateur a modelé Alain Quévès, homme de lettres, écrivain. C'est le livre D'où je viens, 16 écrivains racontent, c'est au Castor Astral. Et puis je rappelle que d'ici quelques jours, samedi 8 février à 15h30, Alain, tu es à la bibliothèque municipale d'Auxerre pour présenter un ouvrage qui a pour titre « Lettres à Lucie, un paysan de Lyon dans l'enfer de Verdun ». Et puis, on peut noter le rendez-vous dès à présent sur son agenda. C'est le samedi 26 avril 2014, c'est en début d'après-midi. C'est rendez-vous au café, c'est à Vézelay, où tu parleras de la nouvelle. On peut retrouver ces informations notamment sur le blog de RVLE, c'est-à-dire les rendez-vous du lire et de l'écrire, qui organisera début septembre prochain un salon, une rencontre littéraire à Vézelay, mais on vous tiendra informé d'ici là. Merci Alain d'avoir été ce soir
Merci
avec
Yannick.
Nous. Et puis mercredi prochain, à bord de Wagon Livre, nous recevrons quelqu'un que tu connais. C'est aussi une éditrice dans un autre genre. C'est la créatrice des éditions Mutine, Marie-Thérèse Mutin.
Que j'adore.
Sera devant notre
Bonjour
micro.
Marie-Thérèse.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore Alain.
Bonsoir.
Excellente fin de soirée à l'écoute de Radio. Rendez-vous mercredi prochain, 12 février, toujours sur la même fréquence, à 21h, sur votre radio locale. Au revoir.